se constituer un patrimoine en épargnant sur le long terme avec OFIAM.
Et voilà, on reprend ce Live Invest, cette deuxième édition de Live Invest, c'est de la première matinée qui est consacré à la constitution du patrimoine. On va passer à l'atelier épargner sur le long terme. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Caillé. Vous êtes directeur du développement tiers distribution chez OFI Asset Management. Et on va justement parler de l'épargne sur le long terme. Mathieu, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter OFI Asset Management ?
Bien sûr. Alors, OFI Asset Management, c'est une société de gestion qui est filiale des groupes Massif et Matmut. Massif détient 65% de notre capital, Matmut environ 25%. Nous avons 50 ans d'existence. Nous fêtons ces 50
bravo,
ans cette
bravo.
Année. Merci.
Félicitations.
Des cinquantenaires, on fait partie des seniors maintenant.
Oui, mais vous avez l'expérience, vous êtes expérimenté.
On a effectivement de l'expérience et en l'occurrence, nous avons de l'expérience en investissement socialement responsable, une expertise que nous développons depuis plus de 25 ans. Et à ce titre, nous sommes signataires des principes pour l'investissement responsable qui nous ont discerné pour la quatrième année consécutive la meilleure note à plus.
D'accord. Donc juste pour peut-être expliquer aux internautes, une société de gestion de portefeuille, c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Quelles sont vos activités ?
Alors nous gérons des actifs, de l'argent pour le compte de tiers. Et ces tiers, ça peut être ou bien des investisseurs institutionnels ou bien des investisseurs privés. Voilà. Alors OFI, c'est une société qui s'est constituée par le biais d'investisseurs institutionnels et c'est lié aussi à notre actionnariat qui représente c'est la contribution des encours des investisseurs institutionnels. C'est environ 50 milliards sur les 68 milliards que nous gérons. Et puis il y a 20 milliards qui proviennent de fonds ouverts. Et dans ces 20 milliards, il y a 3,5 milliards qui viennent de la clientèle de particuliers. Voilà. Je précise que nous ne voyons pas les clients particuliers en direct. Nous développons ces segments par l'intermédiaire de partenariats avec des réseaux bancaires, des réseaux d'assurance et des conseillers en gestion de patrimoine.
D'où la tiers distribution.
D'où la tiers distribution.
De votre titre, de votre fonction.
D'accord. Exactement.
Qu'est-ce que l'épargne de long terme ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est.
Alors, déjà, on peut lui donner une définition quasiment légale. C'est une durée. Et en général, on va considérer que l'épargne de long terme, c'est une épargne de plus de 5 ans. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de vous dire que le temps est notre allié en constitution d'épargne. Donc, il faut être vigilant sur la préparation de ces projets. Et lorsqu'on parle de retraite, par exemple, il ne faut pas hésiter à s'y mettre le plus tôt possible. Et c'est intéressant de se donner le temps parce que ça nous donne accès à plusieurs classes d'actifs, dont les classes d'actifs réputées les plus risquées, qui sont les actions, mais qui, dans le même temps, sont réputées être le plus rentables dans le temps. Donc ça, c'est ce qui paraît être intéressant quand on fait de l'épargne long terme, c'est que ça nous donne accès à l'ensemble des classes d'actifs, y compris les plus risquées.
D'accord. Donc en fait, les actions sur 20 ans, c'est l'actif qui donne en fait le meilleur rendement, mais c'est sur 20 ans parce qu'en gros, les moins-values d'aujourd'hui seront compensées par les plus-values de demain. En fait, c'est un peu ça le principe.
Le principe, c'est ça. C'est qu'il faut se laisser le temps de retour à meilleure fortune.
D'accord.
Et donc, là, le plus on a le temps, le plus on peut encaisser des chocs. On sait qu'ils sont nombreux depuis le début des années 2000. On a connu la crise des subprimes. On a connu la crise...
Avant, il y a eu Internet.
La crise des technos, ouais. La crise des subprimes, la crise des dettes souveraines en 2011, et plus récemment, la crise sanitaire. Donc, notre monde a changé, ça nécessite à la fois de faire de la diversification et de prendre le temps de se constituer l'épargne.
D'accord. Alors, justement, vous l'avez dit, et c'est vrai qu'on le dit, on dit qu'il faut diversifier son portefeuille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'il faut diversifier son portefeuille ?
Alors, bon, ça tient quasiment du bon sens paysan. C'est un peu de la palissade, mais on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, une fois passé ce constat, se constituer un portefeuille, ça nécessite d'être vigilant, à la fois dans le temps et dans les outils que nous prenons. Et quand je dis être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'exposition au risque qui correspond à son profil. Hein. On l'a dit, notre monde a changé. Et qu'est-ce qui a changé dans notre monde ? Eh bien, on est dans un environnement où les taux sont à zéro, ou proche des zéros, voire négatifs. Et dans le même temps, l'endettement des États est très important. Alors, en matière de constitution de portefeuille, quel est l'impact ? Eh bien, c'est aussi simple que ça. C'est que on va considérer qu'il y a une hiérarchie des risques dans les classes d'actifs, hein, où le monétaire et le marché obligataire sont a priori moins risqués que le marché des actions. Et les taux zéro ou négatifs bouleversent cette hiérarchie des risques des classes d'actifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque on a des taux dans son portefeuille, eh bien, et que les taux sont à zéro, on prend automatiquement le risque d'une hausse des taux. Alors, ça nécessite une petite explication,
oui.
Hein, parce que il faut savoir que dans une obligation, hein, la performance d'une obligation, c'est à la fois son rendement, le taux, et l'évolution de la valorisation, son prix. Et les deux évoluent de manière inverse. Hein. Quand le taux monte, le prix baisse.
C'est donc, ça. Donc... En fait, c'est une créance. En fait, une obligation, c'est une créance, en fait. On peut dire ça comme ça.
Exactement.
Et en fait, plus la créance est demandée, plus il y a de personnes qui sont prêtes à acheter cette créance, et plus le vendeur peut se permettre de proposer un intérêt bas, puisque de toute façon, il sait qu'il va pouvoir vendre sa créance. Donc en fait, c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que plus une obligation est demandée, et moins elle rapporte. C'est
exactement ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui, avec les taux zéro, voire négatifs ? C'est qu'on prend le risque, dans un portefeuille, de subir une hausse des taux. Donc pour en revenir à la question, il est impératif aujourd'hui, ça l'a toujours été, mais il est impératif aujourd'hui non seulement de bien diversifier son portefeuille et aller chercher d'autres classes d'actifs, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher des obligations, mais peut-être privilégier des obligations émises par des entreprises.
Hein, ce qu'on appelle les obligations corporate.
Exactement. Ou bien aller chercher des obligations sur les pays émergents, et puis les actions. Donc il faut rééquilibrer la diversification, et puis il faut faire preuve de plus de flexibilité dans son allocation.
Donc, il faut être prêt à prendre davantage de risques. En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le sécuritaire, c'est-à-dire les obligations dans la zone euro et dans les principaux pays développés, ne rapportent pas à cause de l'intervention des banques centrales. En fait, c'est les banques centrales qui rachètent beaucoup en fait les dettes, ce qui, compte tenu ce qu'on a dit, et bien effectivement, il y a une demande forte. Donc, du coup, en fait, il y a des intérêts bas. Hein, toujours pareil, la fameuse inversion. Enfin bon, et donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut du coup prendre des obligations d'entreprise, des obligations d'autres zones géographiques, et puis peut-être plus d'actions.
Il faut diversifier le portefeuille. Donc, les exemples qu'on a donnés sont les bons. Si on pense qu'il peut y avoir de l'inflation, l'or et les métaux précieux peuvent être un bon axe aussi de diversification. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on fait de la diversification, il faut toujours le faire en ligne avec un profil de risque et donc ne pas hésiter à se faire conseiller pour mesurer le profil de risque, son profil de risque, et trouver la bonne diversification de son portefeuille en adéquation avec son profil de risque et les projets.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. En fait, tout le monde n'est pas professionnel des finances. Tout le monde n'a peut-être pas envie et puis n'a pas le temps, peut-être, de se tenir au courant, de changer l'allocation d'actifs en fonction des évolutions. On parle beaucoup de la gestion pilotée. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion pilotée ? Et est-ce que c'est un conseil ? Est-ce qu'il faut opter pour la gestion pilotée de son épargne ?
Alors, la gestion pilotée, en fait, c'est une option hein, dans un contrat d'assurance. Hein, et c'est la possibilité que vous donne l'assureur de déléguer à la fois la sélection de vos UC, les unités de compte, hein, ce sont des fonds qui sont référencés dans les contrats d'assurance vie, et l'allocation de ces UC dans un portefeuille en fonction de votre profil. Donc, j'ai envie de vous dire, oui, hein, on l'a vu, les marchés sont extrêmement techniques. Hein, on a cité l'ensemble de ces crises que nous vivons depuis le début des années 2000. On a cité les politiques monétaires accommodantes des banques centrales qui rachètent de la dette. Et donc, les marchés atteignent un niveau de complexité qui rend nécessaire la délégation. Hein, et dans ce cadre-là, la gestion pilotée est une bonne option, hein, de mon point de vue, à prendre pour l'épargnant, à la fois parce que vous profitez de la délégation auprès d'un expert de la gestion d'actifs. Et dans le même temps, aujourd'hui, il y a énormément d'options de gestion pilotée dans les contrats. Donc ça vous permet de diversifier en fonction des contreparties, hein, et puis, dans le même temps, sur des thématiques diverses et variées.
Voilà. D'accord.
Et ça permet, en l'occurrence, de pouvoir jouer des thématiques qui commencent à être de plus en plus présentes dans les contrats, qui sont des thématiques qui ont trait à des tendances de long terme, telles que la transition énergétique ou le climat.
Oui, on en parlera. Donc, en fait, dans un premier temps, en fait, on détermine votre profil d'épargnant, votre appétence au risque. Hein. C'est ça, ça fait partie du devoir de conseil. Avant toute délégation, on fait en fait, on veut davantage vous connaître et savoir quel est votre horizon de placement et jusqu'où vous souhaitez prendre des risques, hein, c'est ça ?
Oui, c'est une obligation réglementaire hein, aujourd'hui. Donc, il y a à la fois la définition des projets et puis, en fonction des projets, le risque, hein, l'appétence au risque que chacun a à s'exposer à des risques financiers. Faut rappeler que en matière de gestion financière, ce qui crée de la performance, c'est l'exposition à un risque. Hein, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Donc, s'il n'y a pas d'exposition à risque, il n'y a pas de performance. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment impératif et, je le répète, réglementaire, discerner quel est son profil de risque, son appétence au risque, avant de créer son portefeuille.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de terminologie. On parle de gestion pilotée, de gestion profilée, de gestion déléguée, de gestion sous mandat. C'est quoi la différence ?
Alors, c'est une bonne question. Parfois, il n'y en a pas. Hein. La gestion pilotée, c'est de la gestion diversifiée. Hein. Donc, on est bien dans le cadre de la diversification. La gestion sous mandat, c'est un autre service, c'est une autre solution financière. Et la gestion sous mandat, en général, elle est pour le compte d'une personne. Hein. C'est un tuiti personnel. Donc, en général, c'est un service qui coûte un peu plus cher. Et puis, elle est accessible à partir d'un certain montant. L'avantage de la gestion pilotée, justement, c'est qu'elle vous donne dans une certaine mesure la capacité de profiter d'une gestion sous mandat qui est plutôt dirigée vers les hauts revenus, hein, mais sans avoir de contraintes de prix la plupart du temps.
Hein. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, en fait, la gestion pilotée, c'est en fonction de votre profil de risque et c'est automatisé, enfin, c'est pas automatisé, mais en fait, l'allocation, elle est en fonction de votre profil de risque qui est standard. Qui,
exactement.
Voilà. Alors que dans la gestion sous mandat, on est dans le sur-mesure.
Exactement.
En gros, la gestion pilotée, on est dans le prêt-à-porter et la gestion sous mandat, on est dans la haute couture. C'est un peu ça.
C'est bien ça.
Voilà.
C'est bien
ça. Mais ça coûte plus cher, la haute couture.
Ça coûte plus cher, bien entendu. Et le seuil d'accès est plus élevé.
Mmh. Hein, donc, d'accord. C'est à partir de combien qu'on peut faire de la gestion sous mandat ?
Ça dépend des organismes, mais on va dire que pour certains, c'est 50 et pour d'autres, c'est 150. Et là encore, il y a des services qui sont...
Dont vous parlez en milliers d'euros ?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Faites bien de le préciser.
C'est ça, c'est pour ça. Okay. Il y a des contrats sur Internet où on peut faire de la gestion sous mandat à partir de 1000 euros. Est-ce que c'est de la vraie gestion sous mandat ? Parce que, effectivement, vous parlez de 150 000 euros, entre 1000 euros et 150 000 euros, c'est pas pareil. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus de la gestion pilotée que de la gestion sous mandat sur Internet ?
Oui, ça ressemble plus à de la gestion pilotée qu'à de la gestion sous mandat. Une fois encore, hein, la gestion sous mandat, c'est plus le service que vous avez en banque privée. Vous allez rencontrer votre banquier et vous allez, pour lui, décortiquer votre vie, vos envies, vos besoins. Et il va créer un mandat en fonction de ce périmètre-là. Hein, alors que dans la gestion pilotée, une fois encore, là, c'est le prêt-à-porter. On vous met dans une case, vous faites du 50, on vous donne du 50. Voilà.
C'est ça. Vous avez un profil équilibré, par exemple, donc on fait du 50% sécuritaire, j'allais dire, enfin sécurisé, et puis 50% risqué.
Voilà, c'est ça. Alors l'avantage, c'est que maintenant, dans certains contrats d'assurance, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle du multipoche, c'est-à-dire d'avoir une partie de son épargne dans la grille de gestion pilotée, et puis une autre partie investie sur des fonds. Donc ça permet de rajouter un peu d'immobilier, des SCI, des SCPI, des OPCI, et puis pourquoi pas des produits structurés. Hein. Donc il y a quand même la possibilité, même quand on a des montants à investir qui sont moins importants que les hauts revenus, de pouvoir profiter d'un certain tailor-made, quoi.
D'accord. Et puis il y a la gestion par horizon aussi, c'est ça. C'est en gros, si j'ai bien compris, plus on se rapproche du départ à la retraite et plus le portefeuille est sécurisé. C'est un peu ça l'idée.
C'est exactement ça. En fait, on va désensibiliser l'exposition au risque du portefeuille jusqu'au moment de l'atteinte de l'objectif. Hein, c'est utilisé notamment pour la constitution de l'épargne retraite. Hein, c'est une grille qui est obligatoire dans le plan d'épargne retraite, hein, qui a été mise en place par la loi Pacte, hein, en 2017.
En fait, c'est mis en place par défaut, c'est-à-dire que si vous...
Exactement.
Voilà, mais après, vous avez la possibilité de changer de mode de gestion, mais ça, il faut le dire à son gestionnaire.
Il faut le dire à son gestionnaire. Hein, donc, par défaut, c'est la solution qui est proposée dans le cadre d'un plan d'épargne retraite. Et là, eh ben, effectivement, ça consiste à désensibiliser le risque au fur et à mesure qu'on avance du projet, quoi.
Ok. On parle beaucoup, vous en avez parlé, de la transition énergétique, on parle beaucoup de l'ISR d'une manière générale, il y a même un label ISR, enfin, il y en a même plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, ça fait partie du problème d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre problème justement. Est-il intéressant d'intégrer des fonds ISR dans son portefeuille ?
Ben oui, c'est intéressant, et puis j'ai envie de vous dire que ça va devenir la norme. Hein, ce que l'on peut dire sur l'ISR, c'est que il y a une évolution qui s'est faite sur les 20 dernières années. Alors, il y a 20 ans, il était considéré que ajouter des filtres extra-financiers pour la sélection des titres dans un fonds, hein, extra-financier, ESG, environnement social et de gouvernance, eh bien, ça coûtait à la performance.
D'accord. Voilà. En fait, c'était pas se focaliser uniquement sur l'évolution du chiffre d'affaires, des bénéfices, de la marge nette, mais prendre en compte, effectivement, d'autres critères qui ne sont pas strictement financiers.
Exactement. Hein, et c'est la relation de l'entreprise avec les parties prenantes. Hein, et les parties prenantes, c'est les actionnaires, bien sûr. Alors, on parle de gouvernance. Les
salariés.
Ce sont les clients, ce sont les prestataires divers et variés. Et puis, c'est la manière dont se comporte l'entreprise avec tous ces gens-là, mais aussi avec l'environnement et son impact sur l'environnement. Alors, c'est plus ou moins vrai en fonction des secteurs. Hein. L'impact sur l'environnement est peut-être moins prégnant chez les banquiers que pour des groupes de chimie ou pour l'industrie automobile. Mais l'idée est quand même là. Alors, on a considéré au tout début de l'ISR, hein, je parle des années 2000, mais c'est antérieur à ça, que ça coûtait à la performance, ou en tout cas, ça n'en rapportait pas. Bon. Et puis, depuis le début des années 2000, des organismes supranationaux tels que les Nations Unies ont donné des orientations pour les entreprises. Et puis, plus récemment, hein, on va parler de 2015, hein, et la mise en place de la loi de transition énergétique en France, c'est une bonne illustration, le régulateur a mis en place un certain nombre de règles plus ou moins coercitives. Et aujourd'hui, ben, on est en train de converger vers la coercition. Et dernièrement, il y a une nouvelle règle qui a été imposée aux sociétés de gestion, hein, qui s'appelle Disclosure, qui impose plus de transparence en matière d'analyse ISR pour le porteur de part, dont l'épargnant.
D'accord. Hein. Et on est en train de se rendre compte que même l'ISR est souvent plus performante. Alors, c'est vrai que compte tenu de la situation de crise actuelle, on se rend compte que les fonds ISR, donc labellisé investissement socialement responsable, sont plus résilients, résistent mieux en fait à la crise sanitaire et économique que les fonds non ISR. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ?
Alors c'est vrai, hein, et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que les entreprises qui se comportent le mieux sont celles qui sur le long terme ont le meilleur parcours boursier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, le régulateur va venir à la fois peut-être taxer ou bien punir, hein, l'entreprise.
Donc ça, c'est un risque.
Eh ben oui,
en fait, c'est un risque pour les actionnaires.
Bien sûr, il y a un risque de controverse. Prenons l'exemple de Volkswagen, par exemple. Volkswagen, avec le Dieselgate, a vu son cours boursier baisser de près de 40% et a payé des milliards de pénalités, a dû revoir sa gouvernance. Bref, on voit tout l'impact que ça représente aujourd'hui. Un, alors de mentir toujours, mais à la fois de ne pas être respectueux de l'environnement et ça coûte en bourse.
Hein. D'accord. Voilà. Donc en fait, souscrire un fonds ISR, c'est avoir une certaine garantie.
Alors c'est non, on peut pas dire ça.
Pas garantie. Attention, on n'a pas le droit parce que l'AMF est là, veille.
Non.
Et la CPR aussi.
Non.
Mais non. Enfin, il y a pas de garantie de performance. Nous sommes d'accord. Mais on va dire que il y a une garantie que ça soit un peu mieux géré, peut-être, et en tout cas que ça soit moins sanctionné. Alors en fait, c'est ça.
Alors je sais pas si on peut dire que c'est mieux géré, mais en tout cas, on prend moins de risques de controverse sur les fonds ISR que sur d'autres. Et puis enfin, il y a quand même des tendances de long terme, hein, comme la transition énergétique ou le climat. Et ça va, on peut quand même se dire que les flux vont être orientés là-dessus. Hein, c'est ce que je disais, vous avez à la fois le régulateur, les organismes supranationaux, et puis il y a le poids du marché. Je pense que les épargnants qui nous écoutent ont de plus en plus envie de donner du sens à leur épargne, hein, que ça soit sur le climat, mais aussi sur le social, l'égalité homme-femme dans les entreprises, un peu plus d'équité dans la répartition des revenus d'entreprise entre les actionnaires et les salariés. Donc je pense que au-delà de l'aspect régulation, il y a un besoin qui se crée au niveau des investisseurs.
Et Mathieu, est-ce que demain, il n'y aura plus que des fonds ISR ? Est-ce qu'en fait, ça va devenir la norme ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que il y a encore certains secteurs pour lesquels c'est compliqué. Mais on doit pouvoir considérer que si d'un point de vue climat, ça sera peut-être compliqué de répondre à cette exigence-là. Au niveau social et de gouvernance de l'entreprise, oui.
D'accord. Très bien, parfait. Ben, merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions des internautes. Alors, première question. On dit qu'un bon portefeuille doit être sécurisé à 80% et risqué à 20%. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, sur le papier, hein, d'un point de vue académique, ça l'était probablement. Hein, je reviens sur ma hiérarchie des risques des classes d'actifs. Sauf que, on l'a vu, le monde a changé. Hein, et donc, aujourd'hui, avoir 80% d'obligations gouvernementales, c'est prendre le risque de la hausse des taux et donc avoir un impact non négligeable sur la valorisation de son portefeuille.
Alors, expliquez ce risque de hausse des taux, parce que quand on dit ça, on se dit, si les taux augmentent, si le taux d'intérêt augmente, c'est bon pour l'épargnant. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement ce risque d'augmentation des taux ?
Oui, encore une fois, hein, la performance d'une obligation, hein, ça vient à la fois de son rendement, hein, et de son prix, hein, et de l'évolution de son prix dans le temps. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, les deux évoluent de manière contracyclique. Hein. Donc quand les taux augmentent, vous touchez des coupons supérieurs, mais en même temps, vous avez un impact instantané sur la valorisation de votre obligation. Et donc, par la force des choses, hein, le plus le taux monte, hein, le plus vous allez avoir le prix qui baisse dans votre portefeuille, et ça va impacter la valorisation globale de votre portefeuille.
D'accord. Donc, ça vous rapporte plus, mais si vous retirez, si vous vendez, si vous avez besoin de liquidité, en fait, vous percevrez moins.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Ben, vous constaterez une perte sur la valorisation de l'obligation. Donc, une fois encore, l'important, c'est bien discerner votre profil de risque avec un conseiller. Et après ça, avoir un portefeuille diversifié et flexible, hein, et user de tous les actifs qui sont à la disposition du gérant pour pouvoir avoir un portefeuille qui correspond à un profil de risque prudent.
D'accord. Donc, en fait, le 80-20, ce n'est pas forcément la règle à suivre. D'accord.
Non.
Qu'est-ce que le private equity ? Excusez-moi de mon anglais. Faut-il y aller ?
Alors, le private equity, c'est du capital investissement en français dans le texte.
Voilà. Hein, et donc, c'est très bien, comme ça.
Voilà. Et donc, là, ça consiste en quoi ? Ben, ça consiste à investir dans des entreprises non cotées, ou bien qui sont naissantes. Hein. Alors, on parle beaucoup des startups, le capital investissement, ou bien dans des entreprises qui veulent se développer sur un nouvel axe, un nouveau produit, nouveau segment de marché, etc. etc. Donc, c'est intéressant parce que c'est un nouvel axe de diversification. C'est intéressant surtout si on a le temps, hein, parce que c'est une classe d'actifs qui est réputée plus risquée, à la liquidité qui est plus faible. Et d'ailleurs,
de toute façon, il faut rester un certain temps, c'est ça.
Exactement.
On ne peut pas partir quand on veut, enfin dans les premières années.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein, c'est souvent assorti d'une période de blocage de l'investissement qui est plus ou moins longue. Hein. Donc oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, la loi Pacte ne s'est pas trompée. Elle a accordé un peu plus de capacité d'investissement dans l'assurance vie sur ces produits de capital investissement. On peut aller jusqu'à 50% maintenant. Et donc, oui, ça représente un intérêt plutôt sur le long terme. Et j'en reviens toujours au bon profilage. Mmh. Donc, mesurez bien votre profilage pour vous assurer de ne pas vous engager dans un investissement qui risque de vous coûter ou qui risque de vous bloquer pendant un certain temps.
Oui, ça permet de donner du sens à son épargne, puisque là, on aide souvent des petites entreprises à devenir plus grandes. En revanche, là, on prend un risque. On sait qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui font faillite, par exemple. Donc, en fait, c'est un sacré risque. Que pensez-vous du label Relance, justement ?
Alors, le label Relance, c'est un label qui a été mis en place par l'État français à la fin de l'année dernière et qui consiste à donner l'opportunité à l'épargnant ou à l'investisseur, parce qu'on peut aussi avoir des investisseurs institutionnels, de participer à la relance de l'économie française suite à la crise sanitaire que nous venons de vivre. Donc là encore, c'est intéressant pour les Français qui souhaitent s'engager dans la relance de l'économie française. Après, il n'y a pas d'impact fiscal. C'est vraiment l'engagement intuitif personae de vouloir participer à la relance de l'économie française. Hein. Et là, on investit principalement sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire. C'est 30 à 60% du portefeuille. Et ce sont des entreprises françaises principalement.
D'accord. Et en sachant qu'il y a des critères ESG à
respecter
également.
Exactement. Okay.
Quel est l'impact de la flat tax sur l'épargne de long terme ? Alors, juste la flat tax, on explique, hein, c'est le prélèvement forfaitaire unique, le PFU à 30%, voilà, qui a remplacé, maintenant, qui est apposé sur les gains de quasiment presque tous les placements. Donc, quel est l'impact de cette flat tax sur l'épargne de long terme? J'imagine que ce que l'internaute a voulu dire, c'est, en gros, est-ce que la flat tax, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'épargne de long terme?
Alors, pour les hauts revenus, c'est une bonne chose. Voilà, on va dire que pour les revenus les plus faibles, faut peut-être privilégier le barème. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que ça se fait au niveau de la déclaration des impôts, et on fait le choix pour l'ensemble des véhicules. Hein, donc voilà. Mais oui, c'est un mieux pour les hauts revenus, et surtout, ça redonne de l'intérêt à l'ensemble des produits, hein, parce que ça homogénise finalement la taxation, hein, sur l'ensemble des produits. Donc toujours dans cette idée de diversification, on a beaucoup parlé d'assurance vie, on a parlé des plans d'épargne retraite. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder vers les PEA, même si avec le Brexit, ça impacte ces véhicules-là, puisque l'Angleterre maintenant est sortie de...
C'est ça, puisque c'est que les valeurs françaises et européennes.
Exactement. Hein. Mais ça permet, une fois encore, de diversifier son épargne, non plus par l'actif, mais par le véhicule. Alors par l'actif aussi un petit peu, puisque le PEA est exposé aux actions.
Hein. D'accord. Ok, très bien, parfait. Une question d'un internaute. Si on a 70 ans, peut-on être investisseur et comment ?
Alors, si on a 70 ans, bien sûr qu'on peut être investisseur. Mais par la force des choses, la durée est plus limitée.
Oui, on a un horizon de placement plus court.
Exactement.
On va dire.
J'espère pour tous que, et pour la personne qui pose la question, qui peut être encore très long, mais si on regarde les statistiques, il est plus court qu'à 50 ans. Voilà, donc il faut être vigilant, là encore, des placements que l'on fait. Pour quel projet, hein, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a besoin de son argent maintenant? Est-ce qu'on en aura besoin pour dans 10 ans? Est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce qu'on le fait pour ses enfants dans le cadre d'une transmission? Donc oui, c'est possible, mais là encore, attention au profil et surtout à 70 ans à l'horizon de placement.
Oui, alors il y a le devoir de conseil qui impose quand même beaucoup de choses. Un assureur a un client de 70 ans, j'imagine qu'il ne peut pas tout lui proposer.
Non. Par exemple, le capital investissement...
Oui, on en parlait là, c'est bien soutenir les PME, mais pas 70 ans. Quoi.
Voilà, donc il faut privilégier quand même les véhicules simples, les véhicules où l'épargne reste disponible, donc pas d'épargne bloquée. Voilà, c'est ce qui me paraît être cohérent quand on a 70 ans.
D'accord. Alors, une question, alors c'est un peu, ça, elle est un peu longue, mais je vous donne l'intégralité de la question. Pourquoi les fonds obligataires datés ne sont pas davantage proposés sur d'autres catégories que les obligations à haut rendement? Les quelques fonds datés proposés sont uniquement investis sur des obligations à haut rendement. Voilà, c'était une précision. Voilà. Pourquoi est-ce que les vieux fonds obligataires ne sont plus proposés à la commercialisation?
Alors, déjà, il y a là où on se place dans le cycle. Hein, je vais répondre à la question en deux fois. Déjà sur la classe d'actifs et sur la partie valorisation de la classe d'actifs. Sur la classe d'actifs, oui, c'est principalement ce qu'on appelle les obligations au rendement, c'est le high yield. Hein, c'est la partie basse de la notation crédit, donc on a un risque supplémentaire. Et en contrepartie de ce risque supplémentaire, on obtient une prime qui est plus élevée. Bon. Et ça a représenté un intérêt. Alors c'est cyclique. Hein. Là, aujourd'hui, ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire l'écart de rendement entre une obligation, en l'occurrence au rendement, et le taux sans risque, c'est beaucoup écrasé. Donc c'est peut-être moins intéressant de le faire aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. Donc c'est la raison pour laquelle on propose moins ce type d'outils aujourd'hui. Et après, il y a d'autres classes d'actifs qui ont été proposées sur les fonds datés. L'investment grade, hein, c'est-à-dire la partie un peu plus haute des obligations privées, a fait l'objet aussi de propositions en fonds datés. Il faudrait constater que c'est peut-être plus approprié pour une entreprise, des gros capitaux, parce que tout simplement le rendement est est plus faible. Hein, voilà, donc on prend un risque de crédit, donc un risque de défaillance de l'émetteur moins élevé, mais dans le même temps la performance est plus simple. Oui. Donc pour répondre à la question, le plus approprié c'est plutôt les obligations à haut rendement, et ça dépend du cycle dans lequel on se situe.
Alors, dernière question, parce que là, ça y est, on atteint l'heure. Investir dans un PE, donc dans un plan d'épargne entreprise, à la retraite, est-ce sécurisant? Quel est le meilleur choix? Alors, je vous lis aussi, hein, sachant que dans mon entreprise, je peux investir en ISR, en actions ou en obligataire.
Ah, ça, alors, ça, c'est...
Ça n'est pas un salarial, c'est pas vraiment votre cam, on va dire. Bon, toute façon, vous pouvez répondre. Effectivement, il y a la possibilité cet après-midi, il y a le replay de votre intervention. Et puis aussi, les internautes pourront poser des questions aussi à l'entreprise. Et j'imagine que vos équipes pourront répondre au calme, tranquillement. Parfait.
Peut-être pour répondre à cette question, néanmoins, je pense que l'épargne salariale, la garder après la retraite, ça permet d'avoir toujours ce petit capital qui est disponible. Surtout s'il y a une part d'investissement en actions de l'entreprise, ça peut être pertinent de le garder.
Voilà, en sachant que les frais sont négociés au niveau de l'entreprise. Exactement. Donc sont souvent plus faibles que quand on souscrit individuellement un produit. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, demain. On va parler des impôts. On va voir quels sont les moyens, mais totalement légaux, je vous rassure Mathieu, pour réduire ces impôts. Merci beaucoup.
Merci Jean-Philippe.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.